pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons le montage d'une conférence qui avait lieu le vendredi 6 décembre dernier, organisée par le collectif Égalité Santé du centre hospitalier de Saint-Denis et intitulée « Quel fric pour l'hôpital public ».
Donc je me permets de présenter les intervenants par ordre de prise de parole. Donc Olivier Miron, qui est donc cardiologue à l'hôpital Bichat, membre du collectif Interhôpitaux et auteur d'un livre Guide des intox de notre système de santé, donc qui parle justement de ces problématiques de financement hospitalier. Claire Pouinec, qui est fonctionnaire spécialisée dans la santé, membre du collectif Nos services publics et co-rédactrice du volet santé du rapport sur l'état des services publics. Et Yasmina Ketal, qui est soignante à l'hôpital Saint-Denis en tant qu'infirmière en addictologie, membre du collectif Égalité Santé et membre du syndicat à l'hôpital. Je vais laisser Sarah Piazza, donc, qui est membre aussi du collectif, psychologue à l'équipe mobile de soins palliatifs et en réanimation, pour présenter le collectif.
Le début de cette histoire, c'était au moment des dernières attaques, des avant-dernières attaques, on pourrait dire, contre l'AME, qui ont eu lieu notamment au moment de mars 2023. On a été plusieurs au sein de l'hôpital de La Fontaine et Casanova à se réunir et à essayer de se mobiliser et d'alerter et les politiques, puisqu'on a pu rencontrer notamment les députés du 93 pour un peu leur expliquer quels étaient les enjeux sur la question du financement de l'AME. Ça, c'était un peu les prémices. Et puis finalement, le collectif, il se fonde au moment du premier tour, du résultat du premier tour des législatives, quand on s'aperçoit des résultats du Rassemblement National. Et avec l'idée que si le Rassemblement National arrive en tête à l'Assemblée nationale, la façon dont on soigne et l'hôpital public serait en danger. Et puis, ça n'a pas été la majorité qu'on craignait, mais enfin, c'était déjà beaucoup trop. Mais ça nous a quand même permis de commencer à penser comment la société civile, au sein d'institutions hospitalières, pouvait s'organiser pour penser l'après, pour penser 2027 et pour penser à un début de résistance. Et finalement, cette conférence ce soir, l'idée, c'est en tant qu'hospitalier, en tant que soignant de ville et d'hôpital, et en tant que usager, usagère, comme on dit maintenant, pour pouvoir se mobiliser, il faut comprendre comment ça se passe. Et il faut notamment comprendre la question du financement. Et donc, on a trouvé que ce serait intéressant que, pour qu'on puisse se mobiliser tous à nos échelles, que déjà on comprenne un peu la façon dont tout ça s'organise et les décisions politiques et financières qui en découlent. Et donc, c'est la première conférence qu'on organise et on est ravis de vous accueillir pour nous expliquer un peu tout ça.
Ce qui fait l'humanité, c'est la solidarité et pas la compétition. Et en fait, c'est ça qui inspire notre système actuellement. Et c'est quelque chose qui est donc né après la Seconde Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Il y avait déjà des choses. Hein. Les gens se sont organisés. Et donc, il y avait ce qu'on appelait des sociétés de secours ou déjà des mouvements mutualistes où les gens mettaient ensemble de l'argent au cas où, une espèce d'assurance solidaire. Et assez vite, il y avait déjà des médecins, mais qui étaient des médecins qui se faisaient payer à l'acte. Et il y a eu, dès le début, une volonté de ces sociétés-là, mutualistes ou de secours, d'aller contractualiser avec les médecins. Et tout de suite, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on garde à l'esprit, je pense, dans nos discussions, il y a une partie de cette médecine qui s'est opposée tout de suite à contractualiser et qui a toujours revendiqué une liberté, et on verra que c'est vraiment une liberté de droite, avec dès 1927 en fait ce qu'on appelle la charte de la médecine libérale qui est en vigueur dans ce que nous on appelle les syndicats de la médecine libérale canal historique, qui se sont toujours opposés au système solidaire et à l'État. La charte de la médecine libérale, c'est la liberté de prescription, donc on peut en discuter, mais à partir du moment où on respecte les données de la science et où on fait pas n'importe quoi avec aujourd'hui de l'argent qui vient de nos cotisations. Le libre choix du médecin, ça on peut aussi le voir à partir du moment où on ne fait pas du nomadisme médical et qu'on ne profite pas d'un système solidaire. Et puis il y a quelque chose qui est très important pour eux, qui s'appelle la libre entente, c'est le fait de pouvoir demander le tarif qu'on veut au patient, et c'est l'idée que c'est le médecin qui doit le fixer. Et donc c'est depuis toujours, ils se sont opposés à ce qui est une tarification imposée et ou négociée. Et puis le nouveau totem qui est apparu après, qui n'était pas là en 1907, c'est la liberté d'installation qui aujourd'hui est quand même un des problèmes dans le système. Pour revenir donc sur ces syndicats de la médecine libérale, hein, ils se sont tellement opposés au système que la première convention nationale avec la Sécu, c'est uniquement 1971 avec une Sécu qui a été créée en 1945. Donc c'est vous montrer la capacité de résistance qu'ils ont eue. C'est aussi eux, d'une certaine façon, quand il y a eu la création des CHU en 1958, qui ont imposé le privé à l'hôpital. En 1980, c'est eux qui ont obtenu la création d'un secteur 2, donc avec dépassement d'honoraires honoraires libres. Et c'était contre l'avis des syndicats majoritaires. C'est toujours des scissions les plus extrémistes qui arrivent à gagner. Et puis la dernière chose qu'ils ont gagnée qui nous impacte aujourd'hui, c'est la fin de l'obligation de participer à la permanence des soins en ville, qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi un gros souci là-dessus. Seconde guerre mondiale, les élites économiques et politiques ont collaboré. Et donc, au sortir de la guerre, elles ont quand même beaucoup de mal à s'opposer à ce système de solidarité qui se met en place. Et on a, avant la fin de la guerre, hein, le Conseil national de la résistance qui se met en place avec les différents mouvements de résistance, les partis politiques ceux qui n'ont pas collaboré et les syndicats. Et c'est pas du tout une partie de plaisir, hein, c'est vraiment des négociations hyper dures. Et le fait que malgré tout, la droite ait quand même beaucoup collaboré et que les élites politiques ont collaboré, la gauche est en position de force. Et donc, si vous ne l'avez jamais lu, je vous invite à lire le programme du Conseil national de la résistance, hein, qui s'appelle Les Jours heureux. Et il y a des super belles phrases. Donc, ça vise à l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie, une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. On a besoin de ça toujours aujourd'hui. Et puis, donc, il y a un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Et donc, c'est la création de la sécurité sociale. Et donc, à ce moment-là, il y a un choix qui est fait, qui est un choix important, qui est de dire, en gros, il y a trois systèmes quand on veut faire un système de protection sociale. Soit on fait un système privé à l'américaine ou à la Suisse, où on va payer chaque mois sans relation avec ses revenus, et puis on va avoir, en fonction du contrat qu'on finance, on va être protégé plus ou moins. Donc ça, c'est le système à l'américaine ou à la Suisse qui coûte beaucoup plus cher et qui est inégalitaire. Il y a le système à l'anglaise où, en fait, c'est les impôts qui financent le système de santé. Donc c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale ou du ministère du Travail. Et donc les dépenses sont très dépendantes du pouvoir politique, de ce qu'ils décident de faire des impôts. Et puis, il y a la caisse de sécurité sociale. Et donc ça, l'idée, c'est de dire on va faire une caisse séparée et qui va être abondée par les cotisations des salariés et des patrons. Et donc ça, c'est le début de la sécurité sociale. Et en fait, le début de la sécurité sociale, c'est appuyé principalement sur les salariés avec... Initialement, c'est principalement des indemnités journalières qui sont versées aux gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont malades. Mais il n'y a finalement pas beaucoup, à ce moment-là, de dépenses de soins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments d'une part, et puis il n'y a pas énormément d'hôpitaux ou d'équivalents. Et puis, bah, avec les progrès thérapeutiques, la création des hôpitaux publics, les CHU... il va y avoir une augmentation des dépenses. Et puis, on s'aperçoit qu'il faut augmenter le nombre de bénéficiaires parce que c'est compliqué qu'il y ait une partie de la population qui n'ait pas accès à la protection. Et donc, petit à petit, la création des droits à la sécurité sociale est de moins en moins basée sur le fait de travailler, mais de plus en plus sur la résidence, en fait. Et donc, on a un élargissement des gens qui accèdent. Et donc on va avoir après la création de la CMU puis de la PUMa qui fait qu'en gros normalement tout le monde est à peu près couvert et à peu près accès à la sécurité sociale. Avec ça, on a un des meilleurs systèmes de santé du monde. Dans les années 80, on était hyper bien classé dans les différents classements internationaux, mais les dépenses augmentent plus vite que la croissance, en fait. Donc là on commence à avoir une petite musique qui dit on ne va pas pouvoir dépenser autant, il va falloir freiner. Et c'est le moment, les années 80, c'est la révolution libérale. En France, il y a quand même un virage de la gauche qui arrive au pouvoir et qui se convertit à l'économie de marché. Et puis, les élites économiques se sont refait une virginité. Hein. Et donc, on va avoir petit à petit concomitance des différentes élites économiques et politiques qui veulent remettre la main sur la sécu. Et donc, on va avoir la suppression des élections des représentants salariés à la sécurité sociale. Ça, c'est en 67. Déjà, c'est une grosse attaque. Et puis, depuis 2004, en fait, le directeur de l'assurance maladie, il est nommé par l'État. C'est plus vraiment le paritarisme qui tient la sécurité sociale. Et donc, on va, en gros, inventer le trou de la sécurité sociale. Le trou de la sécurité sociale, c'est un mot qui est vraiment un mot valise, hein, et qui veut dire qu'en fait... le système, il est sous-financé. Et on commence à parler de charges sociales. Parler des charges sociales, c'est vraiment un point de vue politique. Et donc, il faut que nous, on arrive à parler tout le temps de cotisations sociales. Hein. Les charges sociales, c'est un truc de patron. Et nous, on parle de cotisations sociales. Mais donc, ça, c'est rentré dans les mœurs. Et petit à petit, dans l'esprit général, on a réussi à faire croire que c'était les charges sociales qui étaient les ennemis de l'emploi. Et donc, on a petit à petit fait des exonérations de cotisations patronales. Et donc, en 1980, il y avait 70% des revenus de la Sécu qui venaient des cotisations patronales. Et actuellement, on est à moins de 40% hein, du financement global de la Sécu. Et puis, on a baissé massivement les cotisations patronales au niveau du SMIC. Et donc, on est passé de cotisations patronales qui étaient de l'ordre de un taux de 30% à environ 1,3% de cotisation au niveau du SMIC actuellement. Donc ça a été compensé par un élargissement des cotisations. Donc ça a été remplacé, les cotisations salariées ont été remplacées par la CSG, et qui est sur une assiette beaucoup plus large. Et donc en gros, tout le monde paye la CSG, même les retraités. Elle n'est pas très progressive, la CSG, donc c'est pas très, très égalitaire. Et puis, on a aussi de plus en plus, quand il fallait compenser, donc on baisse les cotisations sociales, il faut compenser, on a augmenté la part de la TVA dans le financement de la sécurité sociale. Et donc, on était à peu près à 5% du budget de la Sécu qui venait de la TVA en 2017, et maintenant, on a à peu près à 20%. Enfin, 2021, c'était 20%. La TVA, c'est un impôt qui est très inégalitaire, puisqu'il n'est pas du tout corrélé à vos besoins. Et pourtant, c'est là-dessus que, de plus en plus, on appuie le financement de la sécurité sociale. Cette compensation qui fait que, petit à petit, on sort d'un modèle où on prend des cotisations patronales majoritairement et des cotisations salariales qui font que on finançait en fonction de nos revenus, donc de nos moyens, et on recevait en fonction de nos besoins. On est en train de sortir d'un système comme ça. Et en plus, les macronistes ont commencé à supprimer cette compensation. Et donc la première fois où il y a eu un vrai attaque là-dessus sur la fin de la compensation, c'est au moment des mesures gilets jaunes, où il y a eu une des mesures gilets jaunes, c'était d'exonérer les heures supplémentaires, en particulier de cotisations sociales. On considère que c'est à peu près 3 milliards d'euros. Et ça, ça n'a pas été du tout, ça n'a pas été du tout compensé. Et donc, à chaque fois qu'on diminue les ressources, et finalement, on sait que les dépenses vont continuer à augmenter, on augmente le trou de la Sécu, et donc ça justifie derrière de diminuer les droits sociaux avec l'augmentation des franchises, la diminution des remboursements et tout ça. La baisse des cotisations sociales pour les salariés ou pour, et encore plus pour le patronat, c'est vraiment un jeu de dupes pour les plus fragiles. C'est pas des victoires en fait de se faire payer avec des primes défiscalisées et sans cotisations sociales. Il y avait quand même donc l'idée qu'on dépense trop, que c'est pas soutenable, et donc on est arrivé à l'idée qu'il allait falloir limiter les dépenses de santé. Et donc au début, on a fait voter par le Parlement chaque année ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et au début, c'était juste un objectif, et puis en fait, finalement, cette enveloppe est devenue fermée. Avec l'idée que il y a un pourcentage du produit intérieur brut, de la richesse produite, qui est consacré à la santé en France et qu'on pourrait pas augmenter. Si on se compare à peu près aux pays adjacents, on dépense à peu près pareil que l'Allemagne en pourcentage du PIB, aux alentours de 12%. Par contre, si on regarde, ils sont un peu plus riches que nous, donc si on regarde en euros par habitant, ils sont bien au-dessus de nous en fait en euros par habitant consacrés à la santé. Et surtout, quand on se compare aux pays qui ont un autre système qui est privé, ils dépensent beaucoup plus que nous. Hein, et il faut toujours rappeler que les autres systèmes sont bien plus coûteux pour un système bien moins efficace, à tel point qu'il faut toujours rappeler que les États-Unis voient en ce moment, au cours des dernières années, leur espérance de vie diminuer, ce qui est quand même inédit dans un pays dit riche en temps de paix. Hein. Une des grosses parts des dépenses de santé et qui est facilement contrôlable, contrairement aux dépenses de médecine de médecine de ville, on y reviendra peut-être. On a décidé qu'il fallait limiter les coûts à l'hôpital. Donc avant, on finançait l'hôpital à la journée, c'est-à-dire qu'il y avait un malade dans un lit, on donnait un tarif. Après, on a considéré que c'était pas vertueux comme mode de financement, donc on est passé à un budget global pour l'hôpital. Là, on a considéré qu'on était incapable de définir les besoins. Donc, on est passé avec l'idée qu'on allait payer au tarif. Donc, c'est la fameuse tarification à l'activité. L'idée de la tarification à l'activité, c'est qu'on doit être capable de dire pour telle maladie, tel séjour, combien ça coûte tout all inclusive. C'est comme dans les clubs. Voilà. On a créé des agences pour essayer d'évaluer ça. Et de dire une appendicite chez une femme jeune non compliquée, si on compte... le bloc opératoire, les médicaments, les antibiotiques, l'infirmière, tout ça, ça doit coûter tant. Et ça sera le même prix à Limoges, à Clermont-Ferrand et à Paris. Et donc, si vous faites plein d'appendicites et que vous travaillez bien, vous allez être à l'équilibre. Si vous êtes en déficit, c'est que vous travaillez mal. Et donc ça, c'est parti de l'idée qu'on allait produire du soin, en fait. C'est l'idée de l'hôpital entreprise qui a vraiment été assez forte depuis les années 2000. Et ça, ça a été mis en place en même temps, enfin, de façon à peu près concomitante dans le temps, avec le fait qu'on allait limiter l'enveloppe, donc l'ONDAM, et donc on avait une enveloppe fermée, en fait. Et donc, chaque année, quand vous êtes directeur d'hôpital, vous savez que vos coûts, ils vont augmenter à près de 4 à 5%, parce que tout augmente, il y a de l'inflation, les salaires augmentent un peu. Et donc, en fait, chaque année, tout le monde travaille plus. Comme l'enveloppe est fermée, comme tout le monde travaille plus dans une enveloppe fermée, les tarifs ont diminué, en fait. Donc on a inventé à l'hôpital le travailler plus pour gagner moins. En 10 ans, on a à peu près fait plus 10% d'activité dans les hôpitaux publics, avec 2% de masse salariale en plus, et des tarifs qui ont baissé de l'ordre de 5%. Donc c'est quelque chose qui est hyper puissant. Et donc en fait, on a très peu augmenté la masse salariale, parce qu'en fait, la masse salariale, c'est 70% du budget de l'hôpital. Et donc c'est la variable d'ajustement quand il faut faire des économies. Ceux qui travaillent à l'hôpital connaissent bien, hein, on a eu de plus en plus de travail avec pas forcément beaucoup de sens parce qu'on a choisi les activités. On nous a poussé petit à petit à avoir l'idée qu'il y a des malades rentables et non rentables. Il faut dire qu'il n'y a pas eu énormément d'opposition du corps médical sur cette évolution. Hein. Et aujourd'hui, quand on parle des patients qui sont sur les brancards aux urgences, oui, il y a moins de lits dans les hôpitaux. Oui, il y a des lits fermés dans les hôpitaux. Mais il y a aussi les services qui ne veulent pas les prendre parce qu'ils savent que ce n'est pas des malades rentables. Et il y a un vrai blocage là-dessus. Et donc, dans les discussions de services, il y a toujours ces discussions de savoir les malades qu'il faut prendre, les malades qu'il ne faut pas prendre. Attention, ne prenez pas les malades qui ont des problèmes sociaux ou qui vont avoir du mal à rentrer à la maison parce que ça va nous bloquer un lit. À ça, ce qui devrait être l'esprit du service public, d'accueillir les gens qui en ont besoin. On a opposé donc la tarification à l'activité. L'idée de la tarification à l'activité, c'est une vision très productiviste du soin. Et c'est l'idée, vous avez un symptôme, on va faire un diagnostic, on va vous faire un traitement, un acte, et puis on fait la facture qu'on envoie à la Sécurité sociale. Donc en fait, la T2A, c'est vraiment une logique de garagiste et qui a tué vraiment l'esprit du service public. Et si les gens sont barrés, c'est pour ça, en fait. Les gens n'avaient plus envie de travailler, quel que soit le salaire, pour faire du mauvais soin. Dans des mauvaises conditions. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 2/3 des hôpitaux publics qui sont en déficit, ce qui est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a inventé des choses assez impressionnantes. Il y a ce qu'on appelle la réserve prudentielle dans l'ONDAM, c'est-à-dire que si l'enveloppe est dépassée par la ville, on va garder de l'argent qu'on avait mis en réserve sur ce qui devait être donné à l'hôpital. Voilà. Et ça, sur les dernières années, c'est plusieurs milliards qui ont été piqués à l'hôpital public. Là, si le PLFSS avait été voté, a priori, on partait sur de nouveau une baisse des tarifs. On rentre dans un truc encore qui fait qu'on va travailler pour gagner moins. Et donc à tel point que là, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, on avait la CME qui nous a présenté le budget de l'année dernière. L'activité repart, donc on a fait plus 4,5% d'activité, de séjours en plus, de patients vus en plus. On a de nouveau des infirmières qui viennent travailler à l'hôpital, donc on arrive à ouvrir des lits. Et pourtant, notre déficit, il augmente de 100 millions d'euros. Et ça, c'est juste le reflet que le système de financement, il n'a aucun sens. Et en fait, on ne finance pas en fonction de besoins, on finance en fonction d'une idéologie qui essaye de limiter au maximum les dépenses. La perspective d'un équilibre budgétaire, qui, je vous le rappelle, n'a aucun sens pour un service public. Hein. Un service public n'a pas à être rentable. Mais là, on a créé une machine à gaz qui est complètement déconnectée de la réalité. Après, donc, les enjeux qui sont importants dans cette évolution financière, c'est qu'on est dans une période où finalement, on a une financiarisation importante qui arrive dans notre système de santé. La définition de la financiarisation, c'est d'avoir des acteurs économiques qui sont extérieurs à la santé, qui viennent dans notre système de santé pour faire des profits, qui donc, eux, vont choisir des activités rentables. Et vont faire de la production du soin en essayant de tirer parti le plus possible du paiement à l'activité et du système. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant les européennes, la Sécu avait décidé de favoriser certains tarifs hospitaliers et de baisser des tarifs pour la clinique. Et ils ont menacé de faire grève juste avant les européennes. Et ils ont tellement menacé de faire grève, de fermer. Hein, donc eux, ils s'en fichent, ils ferment tout parce qu'ils savent que l'hôpital public va gérer. Et ils ont fait tellement peur au pouvoir politique, c'est qu'ils n'ont même pas eu besoin de faire grève. Et on leur a garanti que si les cliniques étaient en déficit, c'était l'État et la Sécurité sociale qui allaient abonder. Donc ils ont réussi à ce qu'on leur dise, Valtoux leur dise, que s'ils étaient en déficit, ça serait socialisé et que, bien sûr, leurs profits restent privatisés. Donc là, on est vraiment dans un système qui est en faillite, mais il est en faillite pour des raisons idéologiques. Et donc, il faut toujours rappeler à nos tutelles et aux politiques qui viennent nous parler de politique de santé, c'est que quand ils ont commencé à le réformer, entre guillemets, il marchait très bien, notre système. Il faut remettre les choses en perspective, c'est-à-dire que la Sécu, aujourd'hui, c'est principalement l'assurance maladie, c'est à peu près un peu plus de 200 milliards d'euros. Et les retraites, c'est encore plus, c'est plutôt 270 milliards, je crois. Hein, 300 milliards, on me dit, tout augmente. Et ça, c'est plus que le budget de l'État, en fait. Et que pour les financiers, que cet argent, il ne soit pas dans le marché, il ne soit pas utilisé, il ne soit pas placé en bourse, et voilà, ça les rend fous, en fait. Et il ne faut pas se leurrer. Il y a des attaques en permanence, et c'est une manne très importante pour des gens qui veulent casser le système et le récupérer à des fins mercantiles. Il faut qu'en permanence, on se répète que l'histoire, cette histoire-là, la Sécu, de créer quelque chose où chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins, c'est une exception dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du monde. Aux États-Unis, il y a un sondage qui montre qu'il y a 20% des Américains qui ont participé à une cagnotte en ligne pour soigner un proche. Voilà, c'est ça l'alternative en fait. Et donc je pense qu'en permanence, il faut rappeler ça aux gens. Notre système solidaire, il coûte ce qu'on décidera qu'il coûte. C'est une discussion politique à avoir. Mais par contre, c'est sûr que ce système, il peut tomber, il est attaqué et qu'on a besoin tous, chacun, d'en être conscient et de le défendre en connaissant comment il marche et en décidant que c'est un combat politique de préserver ce système solidaire.
Faire le lien avec ce que disait Olivier, puisque vous avez vu dans l'actualité en ce moment, entre octobre et décembre, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, c'est le budget, c'est toute la période budgétaire du gouvernement et de l'Assemblée. Et donc dans le budget, il y a trois textes. Il y a le PLF, qui est le projet de loi de finances, qui est le budget de l'État, donc c'était les budgets de l'éducation, de la défense, tous les services publics. Il y a le PLFSS, qui est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est lui qui a été rejeté après la CMP du 49.3. C'est ce texte-là qui a été rejeté. Et il y a le PLFFG, qui est le plan de financement de fin de gestion. Celui-là, il est moins important. C'est pour gérer la fin d'année 24, mais globalement, on en parle beaucoup moins. Les deux gros textes, c'est celui qui gère l'État, enfin, les services publics et la sécurité sociale. Et comme le disait Olivier, le budget de la sécurité sociale est supérieur au budget de l'État. Donc à 1,4 fois, c'est quand même pas anodin, enfin, c'est des 200 milliards de plus quand même. Souvent, on a tendance à croire que la sécurité, enfin, ce qu'on appelle la sécu communément, c'est la sécu, c'est notre carte vitale, la sécu, c'est la santé. Alors que la sécu, c'est la santé, la famille, les retraites, la branche accident du travail, maladie professionnelle, la branche dépendance. Donc il y a 5 branches. La plus grosse, c'est les retraites avec 300 milliards. Et la deuxième, c'est l'assurance maladie avec maintenant 260 milliards. Donc dans le PLFSS, il y a vraiment toutes ces branches. Et il y a un côté dépenses et il y a un côté recettes. Donc l'ONDAM, qui a un objectif de dépenses, qui est une enveloppe plus ou moins fermée, en tout cas elle est contrôlée, cette enveloppe, on n'a pas trop le droit de la dépasser. C'est pas un budget. C'est pas le budget de la santé. L'ONDAM, c'est que ce que dépense la sécurité sociale. Et donc, dans l'ONDAM, c'est divisé en 6 tranches. Il y a ce qu'on dépense pour les soins de ville, donc quand on va avoir le médecin, quand on va à la pharmacie, etc., qui compte pour 40% à peu près. Et il y a ce qu'on dépense pour les établissements de santé, qui compte également pour 40%. C'est globalement les mêmes ordres de grandeur. Et ensuite, il y a les établissements sanitaires médico-sociaux qui comptent pour un peu moins. Donc, c'est les EHPAD, donc pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Et il y a encore des petits trucs qui traînent à la fin sur le FIR, donc c'est les financements régionaux, je sais plus, d'investissement régional. Et après, il y a autres, donc c'est les soins des Français à l'étranger, mais c'est des petits reliquats, mais on en parle quand même toujours. Et pour vous donner aussi une ordre d'idée, en 2019, on était à peu près à 200 milliards d'euros sur l'ONDAM. Pour 2025, on est sur 260 milliards d'euros. Donc on a mis quand même 60 milliards de plus sur la table. À peu près 25%, on va dire, on arrondit, en 5 ans. Donc on met quand même des sous sur la table sur notre système de soins. Ce qui est encore plus rageant quand on a l'impression qu'on travaille pour gagner de moins en moins d'argent. On comprend pas ce qui se passe. Et donc, dans l'ONDAM, on va se focaliser sur les établissements de santé, puis on va se poser la question de comment les établissements de santé sont financés. Les établissements de santé, ils sont pas financés de la même manière si on est dans le privé ou si on est dans le public. Donc, on a les mêmes agrégats, on a la tarification à l'activité, donc le fait qu'on est payé à chaque fois qu'on fait un acte. Mais la proportion n'est pas du tout la même. Dans les établissements publics, c'est à peu près 60% des financements qui est tiré de la T2A, alors que dans le privé, c'est plus de 80%. Le financement de l'hôpital public est plus complexe. Il y a plus de sources de financement. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc il y a plusieurs sources de financement techniques, mais il y a plusieurs financeurs. Il y a la sécurité sociale, il y a l'État, il y a des organismes complémentaires, il y a les ménages. ces parts-là changent aussi entre privé et public. Assez, on va dire, intuitivement, le privé a une part de financement qui sort de notre poche, qui est plus élevée que le public. Mais si on compare ce que donne la sécurité sociale et l'État au privé ou au public, le privé a à peu près 22% des financements, ce qui correspond à peu près à sa part de marché, on va dire, dans santé. Donc en fait, il est autant subventionné, ou autant, il a autant d'argent de la part de l'État et de la sécurité sociale que le public. Le privé a autant du public que le public. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, donc là, on va encore ressentir un peu, on va parler de la T2A. Donc la T2A, c'est, on va dire, le gros du financement et pour le public et pour le privé, 80% d'un côté, 60% de l'autre. C'est deux grilles différentes. Le public n'a pas les mêmes grilles tarifaires que le privé. Et c'est important. C'est important parce qu'en fait, ça veut dire que le privé, sur certains actes, ils vont être surfinancés. Et ils vont se spécialiser sur la partie où ils sont surfinancés. Et le public, c'est moins vrai. Concrètement, comment ça marche? La T2A, il y a l'ATIH, qui est l'Agence Technique de l'Information Hospitalière, qui va faire des projections d'évaluation de l'activité hospitalière. On va dire, bah, cette année, ça va augmenter de 2,4%, 3%, peu importe. Enfin, il donne un chiffre. Ça va être passé, ce chiffre-là, à la direction de la sécurité sociale, qui va le convertir en charge. En charge économique, et pas en cotisation, mais vraiment en charge. Donc en fait, il va rajouter sur ce volume d'activité l'inflation, le fait que les gens, ça coûte cher, enfin voilà, on va rajouter ça, et ça va donner une enveloppe. Ce chiffre-là va être transmis à la DGOS, qui est la Direction Générale de l'Offre de Soins. La DGOS va négocier avec les fédérations hospitalières, les fédérations hospitalières privées et les fédérations hospitalières publiques. Et c'est à l'issue de ces négociations, sur une base technique, mais avec des rapports de force politiques et de négociations, que va être reventilé par secteur d'activité privé et public, de combien ça va évoluer vraiment. On va redonner ça à l'ATIH pour qu'ils disent, par groupe homogène de malades, il va dire, bah, ça, une appendicite en secteur privé, ça coûte tant, machin, truc. Donc ça, comme conséquence assez directe, que la médecine pour le privé, c'est déficitaire. Ça veut dire que le prix, il est fixé sous son coût. La chirurgie, c'est fixé au-dessus du coût. Et la chimiothérapie, c'est fixé bien au-dessus du coût. Dans le public, on va voir à peu près l'inverse. Ça veut dire que c'est pas tant sur la médecine chirurgie, c'est plutôt soins longs, soins courts, soins longs. Les soins courts sont déficitaires pour l'hôpital public. Et là, pour le coup, la radiothérapie, c'est pas la chimio. La chimio, c'est pour le privé. La radiothérapie, c'est pour le public. C'est bien au-dessus du coût. Et quand je dis c'est bien au-dessus, ça veut dire que pour la chimiothérapie, le tarif est fixé 30% au-dessus du coût. Et pour la radiothérapie, c'est 48%. Donc on n'est pas sur des petites marges. Tous ces chiffres-là, je les sors d'un rapport de la Cour des comptes. C'est la T2A et c'est l'année 2023 et il est vraiment génial. Du coup, je vais vous en lire des extraits. Donc, toutefois, la baisse des tarifs depuis une décennie, non accompagnée de mesures structurelles pour aider les établissements à se réorganiser, a mis ces derniers en difficulté puisque les tarifs s'éloignent sans cesse davantage des coûts qu'ils étaient supposés couvrir. Bon, ça mérite d'être clair. Et la deuxième, c'est sur le long terme, les écarts qui se sont creusés entre le coût et les tarifs ont produit des situations de sur- ou de sous-financement. Ces distorsions durables du signal prix ont eu comme incidence sur l'organisation des soins la répartition de spécialités entre les établissements publics et les établissements privés, lucratifs ou non, dont les décisions peuvent se révéler opportunistes. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que le privé, il a des coûts qui, enfin des tarifs qui sont au-dessus de ses coûts sur la chirurgie ambulatoire. Qu'est-ce qu'on constate? Ils sont spécialisés dans la chirurgie ambulatoire. 75% de la chirurgie ambulatoire, c'est le secteur privé. Ils sont là pour faire de l'argent, ils se spécialisent là où ils en ont. Et à l'inverse, 66% de la médecine longue et lourde, c'est l'hôpital public. La manière dont le financement est pensé, a des incidences très concrètes sur l'organisation du soin et la spécialisation des secteurs, qui est à l'avantage du privé et au détriment du public. Sur la grève des établissements privés, qu'Olivier racontait. Effectivement, les établissements privés ont menacé de faire grève l'année dernière, et donc on leur a dit « Oups, pardon, on va quand même vous supprimer vos allègements fiscaux, mais on va vous donner la compensation financière. » Voilà, comme ça, on peut dire devant le public qu'on a effectivement supprimé les allègements fiscaux du privé, mais vous n'êtes pas perdant. Concrètement, dans l'ONDAM cette année, enfin cette année non, puisqu'il n'a pas été voté, mais ce qui était prévu, c'était de donner 300 millions pour la santé publique. Et l'argent qu'on met sur la table pour les revalorisations salariales des établissements privés, la compensation des allègements fiscaux, tout ça, 400 millions. Donc en fait, dans l'ONDAM, il y a eu des vrais choix politiques qui ont été complètement masqués par un discours de « c'est la crise, il faut faire des efforts ». Voilà, donc tout le monde doit bien serrer la ceinture pour redresser le déficit, que nenni, c'est pas ça qui s'est passé. C'est en fait le l'ONDAM tel qu'il a été proposé, c'est un transfert de richesse, d'une baisse de la prise en charge publique, avec ce que vous avez potentiellement entendu parler de la hausse du reste à charge pour les consultations, avec la hausse du ticket modérateur, avec le fait que les arrêts de travail seraient moins remboursés, donc il y a moins de dépenses, mais ces dépenses, elles servent pas à combler un déficit, elles servent à donner aux médecins libéraux en ville, parce que eux, c'est plus 1 milliard qu'on leur donne sur 2025, et aux cliniques privées, parce qu'on leur donne 400 millions. Tout ça est dans l'annexe 5 du PLFSS, si vous vous posez des questions et que vous voulez vérifier les chiffres. Et sur le fait qu'on soit sur les marchés financiers. La sécurité sociale est sur les marchés financiers. Enfin, c'est pas... Et donc, l'État, comme la CAUS, donc la CAUS, c'est la trésorerie de la sécurité sociale, sont sur les marchés qu'on appelle les marchés de gros pour financer tout ça. Et donc, voilà, la CAUS est sur les marchés et a une bonne note. On en parle moins que celle de l'État, mais elle existe. Voilà.
Merci. Avant de passer la parole à Yasmina, j'en profite pour ajouter un petit point que je trouvais intéressant sur la question de la T2A, de la tarification à l'activité. C'est que initialement, donc la T2A, c'est 2004, mais ça a commencé à être pensé dès les années 70 progressivement, avec initialement, avant que l'outil soit transformé en outil tarificatoire. C'était initialement à travers la question du codage du PMSI, c'était un outil qui permettait aussi aux administrations publiques d'avoir un droit de regard sur l'activité hospitalière, et donc, qui dit regard, dit forcément réorientation. Ça, je trouve que c'est un élément important, puisque d'emblée, il y avait dans la question de cet outil la question du contrôle des politiques de santé qui pouvaient être menées dans les établissements hospitaliers. Et puis juste une petite autre chose, c'est que initialement, quand la T2A a été, on va dire, créée et designée, il a bien fallu modéliser des coûts initiaux, donc comme Claire le disait, qui ensuite ont été révisés d'année en année avec justement des tractations un peu politiques entre les différentes fédérations hospitalières. Mais initialement, dans le design de ces modélisations coûts-tarifs, il y a eu d'emblée un parti pris qui a été d'éliminer tous les patients qui sortaient des tarifications moyennes, et donc tous les patients qui coûtaient plus cher, tous ces patients-là ont été d'emblée mis de côté, et donc en créant dès les premiers instants un outil qui était déjà déficitaire. Donc Yasmina, je te laisse la parole.
Bonsoir. Du coup, moi j'ai la charge de faire la traduction dans le réel, je ne sais pas si c'est mieux. Du coup, on va parler de la situation de l'hôpital de Saint-Denis. Pareil, hein, moi, je suis pas directrice d'hôpital. Et du coup, c'est des éléments qui viennent aussi d'un certain nombre d'engagements qui permettent parfois de comprendre. Et effectivement, il y a aussi ce truc-là de c'est très compliqué, un EPRD c'est très compliqué, le budget c'est très compliqué, la T2A c'est très compliqué, et on se rend compte que finalement c'est quand même à notre portée, et que on a aussi tout intérêt en interne de nos établissements à en comprendre au moins les contours, parce que c'est souvent assez éclairant. Alors, le centre hospitalier de Saint-Denis est un centre hospitalier initialement à l'équilibre. C'est assez étonnant au vu de la situation et le bassin dans lequel il est. Mais budgétairement, c'était un hôpital, je dis c'était parce que, spoiler alerte, ça va pas très bien, mais c'était un hôpital qui était plutôt à l'équilibre. Pourquoi ? Parce que, historiquement, on a maintenu un sous-investissement du bâti, très clairement. Vous voyez le vieux bâtiment, le grand bâtiment de l'hôpital BMC. C'est un bâtiment qui est très ancien, dans lequel les conditions de travail ont pendant longtemps et d'accueil des patients ont longtemps été indignes. Ça reste encore sur un étage un petit peu problématique. Mais du coup, au lieu d'avoir fait une véritable réhabilitation du bâti, eh ben, on l'a fait étage par étage. Ce qui donne un espèce de truc un peu bizarre dans cet hôpital où on va au septième, c'est flambant neuf, et puis après tu redescends, il y a un escalier pourri. Et donc du coup, ce bâti un peu bizarre vient aussi d'une projection budgétaire où on s'est dit on n'aura pas les capacités de pouvoir le faire en entier. Et donc du coup, on va faire ça étage par étage. Et le deuxième truc, le volet qui nous intéresse aussi, c'est qu'on a été en sous-investissement en termes de personnel. Étonnant. J'ai un exemple, moi, qui m'avait marqué. C'est que lors de la grève des urgences en 2019, on s'est un peu tous rencontrés dans les services d'urgence d'Île-de-France. Et on s'est rendu compte qu'en discutant avec nos collègues de Cochin, qui avaient à peu près le même nombre de passages par jour, ils avaient deux fois plus de personnel. Là, on s'est dit, il y avait un petit souci. Et je pense qu'il y a eu la question de maintenir et d'essayer de rester dans ces enveloppes contraintes. Ça a donné des stratégies individuelles en fonction des établissements entièrement extrêmement différentes, notamment face à la paix qui avait un peu la possibilité de pouvoir dépasser, et des plus petits hôpitaux qui ont eu d'autres stratégies budgétaires. Alors là, nous, depuis quelques années, la situation économique, elle commence à devenir hors de contrôle. Disons que le premier coup de canif pour nous, ça a été en post-Covid, où en fait, il y a eu les annonces du Ségur de la Santé, et notamment le complément de traitement indiciaire, c'était une petite augmentation salariale. Et ces augmentations, elles ont été partiellement payées, et donc pas totalement compensées. C'est-à-dire que les établissements de santé ont continué de payer les agents. Et en 2021, 4 millions ne sont pas revenus dans notre établissement. C'était la moitié du déficit de l'époque. Et donc, du coup, nous, entre 2019 et 2024, on a vu l'augmentation des tarifs, parce que Emmanuel Macron dit souvent ça. Je suis le président de l'augmentation des tarifs. Ce qui est vrai, il y a eu une augmentation des tarifs. Entre 2019 et 2024, pour nous, c'est de 20% de plus. Mais sur la même période, 40% d'augmentation sur les ressources humaines, et entre 15 et 30% de tout ce qui est inflation, énergie, alimentation sur la même période. Donc de toute façon, ça ne peut pas bien se passer. ce qui conduit maintenant à un atterrissage sur l'année 2023 à moins 29 millions d'euros pour un établissement qui était historiquement à l'équilibre. Bon, le budget global de l'hôpital, c'est 250 millions. Donc c'est pour vous donner un peu... Et donc il y a une menace qui n'est pas uniquement sur les investissements en ce moment, mais aussi sur notre trésorerie. Et effectivement, ça fait des heureux parce que on a des recours à l'emprunt qui sont pas uniquement pour nos investissements, mais aussi sur notre trésorerie. Cet été, on a par exemple emprunté 12 millions. Et d'ailleurs, eux, ils veulent nous prêter plus. Ils veulent nous prêter plus. C'est nous qui avons dit les taux sont quand même un peu bon. On est dans la merde, mais on va essayer quand même de récupérer un peu d'argent auprès de l'ARS. Donc voilà, la question effectivement de combien coûtent les choses et de ce sur quoi on est rétribué, c'est une question qui est ancienne, mais qui prend un tournant depuis quelques années autour de la question des effectifs. Il y a eu une fuite massive, alors qui avait déjà commencé avant le Covid. Hein. En 2019, on était déjà sur des situations qu'on dénonçait de textes, enfin de planning à trous, de difficultés d'effectifs, et ça s'est majoré après le Covid par deux biais. Donc le départ, effectivement, il y a des gens qui ont changé de profession, mais il y a aussi des gens qui ont changé de mode d'exercice. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur poste de fonctionnaire titulaire dans les établissements de santé pour avoir d'autres types d'exercices qui sont la vacation et l'intérim. Et en fait, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, plus les postes qui étaient déjà initialement vacants qui ont été faits sur des heures supplémentaires. Et donc, du coup, un soin qui initialement coûtait tant, eh ben, en fait, peut coûter le double, voire le triple. L'ironie de la situation, c'est que ces emplois très précaires et étaient très valorisés par le passé, par notamment les directions d'hôpitaux, parce que ça permettait justement d'avoir une maîtrise des coûts, et que maintenant tout a flambé et tout le monde est en train de dire mais ce serait bien qu'on ait des gens qui soient stables, qui prennent des postes, mais on comprend pas, ils veulent pas les prendre. Et du coup il y a ce truc un peu ironique de la situation qu'on entend. Bon, je ne sais pas si on va retourner au plein emploi, je ne suis pas certaine en tout cas. Sur la question des outils techniques, c'est vrai que le souci du PMSI, de la T2A, de tout un tas d'outils techniques qui nous ont été opposés, souvent dans le quotidien des soignants, ça a été utilisé pour nier un peu la réalité des soignants. Je m'explique sur la question du PMSI notamment. En 2019, quand on a eu un peu ce mouvement-là de trop-plein de travail, nous, on s'est vu opposer, je m'en souviendrai toute ma vie, première réunion, on nous montre un PowerPoint, on nous montre l'activité, on nous dit, mais en fait, elle n'a pas bougé, l'activité. Ah. Et techniquement, effectivement, elle n'avait pas tant bougé que ça. Autre exemple, en réanimation néonatale, là, il y a 2 ans, elles ont fait une grève parce qu'elles n'en pouvaient plus, elles se sentaient mettre en danger les bébés, et pareil, PowerPoint. En fait, vous nous dites que vous dépassez les ratios. Nous, franchement, techniquement, ça ne se voit pas. Alors, elles ont été malignes en réanimation néonatale, c'est qu'elles ont tenu un journal de bord. Et qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en macro, effectivement, elles ne dépassaient pas. Mais que, heure par heure, avec les transferts, les arrivées, dans une journée, dans un shift d'une journée de travail, ben, en fait, elles dépassaient. Et elles dépassaient de beaucoup, et elles dépassaient souvent. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un souci. Moi, je ne suis pas contre les outils techniques. J'adore les tableaux aussi. J'aime bien les tableaux Excel. Mais c'est que ça ne peut pas totalement traduire la réalité des soins. Par exemple, le fait de travailler, et c'était un peu l'explication pour les urgences, c'était effectivement, ça s'était stabilisé. C'était monté il y a quelques années. Ils n'avaient pas donné assez de postes par rapport à l'activité qui était montée. Et surtout, l'activité s'était pénibilisée. En fait, on se retrouvait au carrefour de toutes les galères, la médecine de ville, les services, effectivement. Et en fait, ça, c'était pas palpable, c'était pas compréhensible. Donc, dans ce contexte de crise budgétaire actuelle, on a plusieurs enjeux qui sont une petite musique qui revient, qui est le retour de l'activité. Et pas n'importe quel retour de l'activité, c'est le retour de l'activité de 2019. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en gros, il y a eu le Covid. Et au moment du Covid, on ne pouvait pas comptabiliser l'activité comme on pouvait le comptabiliser pour la T2A. On a inventé un truc qui s'appelle la garantie de financement. Et donc, du coup, en 2020, on a pris l'année de référence qui était l'année 2019. Et on a dit, en gros, toute l'activité que vous n'avez pas faite par rapport à 2019, on vous la finance. Et on vous la garantit. Ce qui était plutôt intelligent. Il se passait quelque chose d'important sanitairement parlant. Et donc, on garantissait le fait que de prendre en charge des patients Covid et de transformer notre activité de Covid, ça ne nous coûte pas d'argent. Ça a duré un temps. Parce qu'après, on a dit, oh, mais vraiment, les hôpitaux, et notamment le privé, a commencé à dire, mais franchement, ils ne se posent pas de questions, ils n'arrivent pas à reprendre leur activité. Ça, c'est parce qu'il y a la garantie de financement. Ils se reposent sur leur laurier. ils devraient reprendre une activité, je ne comprends pas. Sauf qu'entre-temps, bah, la crise des effectifs se majorait. Et donc, du coup, on a progressivement enlevé un pourcentage de la crise de la garantie de financement, en sachant pertinemment qu'on était incapable de récupérer l'activité de 2019, que vraiment, on n'était plus du tout dans les mêmes dispositions. Donc, ils ont commencé à enlever 60... C'était plus 100%, c'était 75, puis 50, puis 30, puis on a changé le nom, puis maintenant, ça s'appelle la SMA. C'est un calcul un peu plus complexe et qui fait que on perd des thunes en ce moment, parce qu'on n'est pas capable de récupérer notre activité. Et donc, du coup, tout le monde a des tableaux de bord très précis sur comment récupérer l'activité de 2019 pour pouvoir récupérer un financement. Et ça, c'est dans la tête de tout le monde, enfin, notamment de nos directions, mais aussi de plein de gens au sein des établissements, parce qu'il y a des conférences de directeurs de gestion qui permettent de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, parce qu'on revient à des trucs de... Il faut faire de l'efficience, pardon. C'était quelque chose qu'on avait un peu oublié, mais en tout cas, il faut refaire de l'efficience. Donc, on est sur des plans d'efficience. Et on a un exemple qui est un peu particulier, qui est celui de chez nous de la maternité. Donc, on a une maternité de niveau 3, qui est hyper importante sur le territoire, qui est en crise depuis de nombreuses années. Alors, c'est une maternité qui a longtemps été en surchauffe, qui a fait toujours plus de naissances, toujours plus de naissances, toujours plus de naissances. Ça s'est arrêté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même problème pour les sages-femmes que pour les infirmières, bah, perte de sens au niveau du travail, une intensification du travail. Et donc, du coup, ses collègues ont changé de mode d'activité. En plus, elles peuvent faire assez facilement du libéral, faire des activités mixtes. Et donc, elles ont fini par partir. Et en 2022, on s'est retrouvé avec la moitié des effectifs de sages-femmes qui n'étaient vacants. Donc, sur une équipe de 90, on n'en avait plus que 45, il me semble. On a dû fermer 18 lits. Et la maternité, c'est hyper important dans un établissement de santé, et notamment le nôtre, parce qu'en fait, ça rapporte. S'il y a bien un secteur qui rapporte, c'est la maternité. Parce qu'en fait, ce n'est pas un séjour déjà, c'est deux séjours. Une fois que la personne, que le bébé est accouché, il y a deux personnes, et donc deux séjours. Et donc, ça rapporte de l'argent. Et en plus, c'est quelque chose où on reste de 3 à 5 jours, ça peut tourner. Et donc, il y a une pression particulière autour de l'activité de la maternité, notamment parce qu'en fait, on n'a pas récupéré l'activité de 2019 et on ne l'a pas récupéré chez eux, notamment. Et donc, du coup, les collègues se retrouvent dans une situation hyper pressurisée où elles-mêmes aussi ont intégré un certain nombre de choses en se disant, par exemple, ces fameuses bed blockers, nous, on en a. On a ce qu'on appelle les femmes 115, qui sont des femmes de notre territoire, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de situation derrière et qu'on va assez sèchement sortir, en sachant pertinemment qu'elles et leurs enfants n'auront pas de toit. Et en fait, ce qui est horrible dans cette situation, sur notamment les femmes 115, c'est qu'il y a à la fois cette question de c'est un peu inhumain ce qu'on fait, mais aussi, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de lits. On a dû en fermer 18. Les personnes qui sont dans ces lits, quand il y a des femmes en salle qui doivent accoucher, il faut bien les mettre dans un lit. On va avoir des difficultés à les transférer. Et donc, du coup, tout le monde intériorise dans les maternités, dans notre maternité, que c'est un problème. Alors que le problème, ce n'est pas elle. Le problème, c'est la situation dans laquelle on est. Et donc, ça donne des enjeux éthiques où il n'y a aucune bonne option, parce que c'est aussi dramatique de renvoyer des femmes à la maison sur le fil ou de transférer des patientes sur le fil. Et donc, en fait, on se retrouve dans des situations où, quand on commence à réfléchir à l'activité ou à la finance, il n'y a jamais de bonne réponse. Un petit dernier point avant de conclure. On a un établissement qui est aussi fragile que la population qu'elle sert. Et on a un enjeu, nous, pour le coup, hors T2A, qui est la valorisation de l'AME. Et c'était un peu le sujet sur lequel on a commencé à se retrouver, qui est essentiel parce qu'en fait, ce qu'il y a d'assez problématique autour de l'AME, c'est que les patients ne disparaîtront pas. Donc, si on n'est pas valorisé, nous, ça restera à notre charge. Et si ça restera à notre charge, ça creuse notre déficit. Et si ça creuse notre déficit, ça met en péril les soins pour toutes et tous. Donc, en fait, parce que nous, on évalue à peu près, si on arrête de nous valoriser, à 14 millions d'euros de déficit supplémentaire. Donc, en fait, c'est une vraie question aussi financière de se dire, en fait, il faut extrêmement bien valoriser l'AME pour les soins de tout le monde. C'est aussi une donnée à avoir en tête, parce que sinon, c'est nous qui allons devoir faire des choix éthiques. Alors, dans ces cas-là, on prend qui? On prend qui, plus qui? Voilà. La réponse trouvée à l'heure actuelle, vu qu'il n'y a pas de réponse politique d'ampleur, c'est des plans de rigueur. Alors, on va geler les équipements, on va geler tant de pourcents des équipements, on va arrêter de faire appel à des intérimaires. Oui, mais en même temps, il faut maintenir l'activité, comment on va faire? Et en fait, on ne fait que des mesures qui vont continuer de creuser le fossé. Alors, pour aller dans la continuité de ce que tu vas dire derrière, en fait, on a souvent évoqué un peu des changements de paradigme. Je pense que effectivement, c'est quelque chose qui nous est vital maintenant qu'on est à la fin d'un cycle. Et dans ce changement de paradigme, il faut aussi qu'on le fasse dans notre tête, parce qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement de méchants administratifs et de gentils soignants. On a une partie, notamment du monde médical, qui a pu y prendre part et même infuser dans nos têtes et dans nos propres pratiques. Donc, on a vraiment un travail à faire là-dessus. Et je pense que tu vas nous donner des petites billes après qui pourraient être à la portée de toutes et tous.
En fait, je pense que dans tout ce qu'on s'est dit ce soir, en fait, on a vraiment des bonnes nouvelles. Parce que quand on fait l'analyse du système, on démontre assez facilement que les lois du marché ne marchent pas du tout et qu'on a tous les arguments pour remettre en cause les politiques néolibérales. Ce dont tu parlais, la garantie de financement pendant le Covid, c'est un budget global, en fait. C'est juste ça, on est sorti de la T2A, ça a très bien marché. Ce qui s'est passé, c'est que les administratifs, ils ont flippé complètement parce qu'en fait, ils sont revenus à quelque chose où ils ne pouvaient plus nous demander de faire de l'activité et ils avaient juste... le rôle de se mettre au service du soin, ce qui devrait être le cas tous les jours, et pas nous parler d'argent. Quand on regarde le marché du médicament, c'est une cata, le marché du médicament, ça ne marche pas. Là, nos patients vivent des ruptures de médicaments tout le temps. Et donc, qu'ont fait les hôpitaux américains qui n'en pouvaient plus de plus avoir les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, des hôpitaux américains ont créé une coopérative pour fabriquer leurs médicaments sur place. Donc nous, en France, on est en train de tergiverser. Quand on dit qu'il faut un pôle public du médicament qui fasse des molécules dont on a besoin, tout le monde nous regarde comme des dangereux communistes. Mais c'est juste pragmatique, en fait. Et il faut qu'on refasse un pôle public du médicament, probablement à l'échelle européenne. L'autre preuve, c'est que quand on regarde le système de protection sociale en France, les complémentaires, ce qu'on appelle les complémentaires, donc les mutuelles d'assurance privée, nous coûte beaucoup plus cher que la Sécu. Donc c'est mal géré, en fait. Le fait d'avoir de la concurrence, en fait, ça renchérit le coût de la santé. Donc,
simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de... ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.